Hello Lisa!
Hello Bailly.
Comment ça va?
Ça va, et toi?
Écoute, ça va très bien. Je suis surprise de te revoir aussi rapidement depuis la dernière fois.
Oui, j'avoue, mais à l'approche des vacances, ce dernier rendez-vous nous tenait quand même à cœur, n'est-ce pas? Pour clôturer
Oui,
en beauté.
effectivement, pour pouvoir se préparer sereinement à profiter des prochains mois. Enfin bon, moi personnellement, je pars pas en vacances maintenant. Je pense que ce sera plus à la rentrée, parce que j'ai pas trop envie de me taper toutes les familles, tous les marmots. Je suis désolée, hein, mais bon, et en plus c'est cher. Donc,
Je comprends.
mais en tout cas, ouais, effectivement, on va faire une petite pause estivale, même si bon, les pauses, c'est un peu notre vie. Mais bon, et toi, tu pars en vacances bientôt?
Oui, j'emmène toute ma petite famille en Guadeloupe pour faire le plein de vitamines et se ressourcer et bien manger.
Cool. Mais il faudrait quand même partir un peu en Afrique, non?
Oui, j'en étais sûre, bizarrement. Je l'ai senti arriver. Oui, t'inquiète pas. Tu sais très bien que, comme d'habitude, c'est en projet et que ça va arriver bientôt.
D'accord, ok, bon bah j'espère. Et donc bah pour on va dire ce dernier épisode, j'allais dire de la saison, mais nous on n'a pas vraiment de saison, mais
On
bon.
a toujours plus de saison.
Oui, tu pourrais nous dire quel sujet on va aborder?
Ben, bien que ce soit l'été, on va aborder, nous, un sujet qui est beaucoup moins chaleureux, on va dire. On va parler de la santé mentale, et plus particulièrement de la santé mentale dans notre communauté, donc des femmes noires à travers le monde, en France et ailleurs. Sujet d'actualité, donc voilà, on avait envie de, nous aussi, apporter notre petite touche de connaissances et de recherches, et surtout transmettre l'information.
Oui, très bien, parce qu'effectivement, c'est vrai que c'est un sujet qui est de plus en plus abordé, parce que ça a toujours été un sujet assez tabou dans nos communautés, et de plus en plus, on entend pas mal de médias, de personnes visibles et influentes qui en débattent, et je trouve que c'est très important, puisque bon, effectivement, toutes les populations sont sujettes à des santé mentales, mais c'est vrai que nous, dans nos communautés, c'est encore une autre vision et une autre façon d'aborder les choses, puisque bon, on fait partie des catégories minorisées.
Oui, exactement. Et effectivement, il y a pas mal de blogueuses et d'associations d'afroféministes qui se sont penchées sur le sujet. Et voilà, on ne sera jamais assez nombreuses pour en parler et distribuer voilà, des moyens de communication et d'information. Plus on est nombreuses et mieux c'est.
Totalement.
Voilà, alors t'es prête?
Oui, je suis prête.
C'est parti!
C'est parti.
Comme on vous l'a dit en introduction, nous allons parler de la santé mentale des femmes noires, de France et d'ailleurs, car la bonne santé mentale, malheureusement, peut être altérée par un mal-être, par des frustrations, ou pire, par des troubles tels que la dépression, les troubles de l'anxiété, les troubles bipolaires et un tas d'autres troubles. Comme on en a parlé également, de nombreuses afroféministes se sont intéressées au sujet et à travers leurs expériences personnelles, les témoignages qu'elles ont recueillis et les études qu'elles ont faites ou qu'elles ont analysées, bah, elles se sont rendues compte que, en fait, l'interaction entre les facteurs sociaux tels que les inégalités et les stéréotypes dont elles sont victimes, dont nous sommes victimes, sont responsables de l'état ou plutôt de la mauvaise état de notre santé mentale. Qu'il s'agisse de la prise en charge des femmes enceintes qui souffrent de la drépanocytose, du recours toujours plus élevé aux césariennes, de la prévalence du fibrome, ou de l'accompagnement médical des femmes, qu'elles soient migrantes, voilées ou handicapées, bah en fait, toutes ces situations doivent être analysées et traitées de manière intersectionnelle, pour pouvoir comprendre en fait les imbrications entre la maladie, le genre, la race et la classe sociale.
Oui, effectivement, Lisa, c'est vrai que les violences institutionnalisées, peuvent avoir un impact non négligeable sur la santé mentale. Et quand on parle de violence institutionnalisée, je pense qu'il est important de préciser, comme tu l'as brièvement indiqué, que en fait il y a des études qui montrent que par exemple les femmes donc non blanches ont un traitement médical différent. Donc par exemple les femmes enceintes d'origine africaine, dans les années 80, il a été mis en lumière que dans les années 80, il y a eu un taux anormal de césarienne pratiqué sur une population ouest africaine. Donc comme on le sait, en France, nous ne faisons pas des statistiques ethniques. Ouais. Donc a priori, ces données-là n'auraient pas pu être vérifiables. Mais en fait, il y a une femme qui s'appelle Priscilla Legrain qui a mené une étude assez précise sur le sujet. Et elle a vraiment mis en lumière qu'il y avait un nombre anormalement élevé de femmes noires d'origine ouest africaine qui avaient subi des césariennes un peu de manière arbitraire, parce qu'on considérait qu'en fait, les femmes noires, souvent, il y a ce stéréotype, je vais dire plutôt ce préjugé, qu'en fait, on a un bassin qui est plus petit que la moyenne. Et du coup, les médecins pratiquent des césariennes un peu, comme ça, arbitrairement. Et c'est vrai que ça, c'est des préjugés qu'on pourrait dire racistes, puisqu'en fait, on essentialise les corps, on considère que les corps des femmes noires sont tous les mêmes, alors que on sait très bien que c'est pas forcément le cas. Et d'ailleurs, j'ai eu en fait cette info parce que j'avais écouté donc un épisode d'un podcast à soi. Et c'est en fait une personne qui s'appelle Diariatou Kébé qui a parlé de cette étude. Elle a écrit un livre qui s'appelle « Maman noire et invisible » où en fait elle parle de la maternité sous le prisme de son point de vue de femme noire. Ouais. Et c'était très intéressant en fait de voir que moi personnellement, j'ai pas encore eu d'enfant. Mais de voir qu'effectivement, dans le traitement médical, les femmes non blanches et spécifiquement les femmes noires ne sont pas traitées de la même façon. Toi qui a eu des enfants, est-ce que justement t'as aussi eu un ressenti similaire?
Alors avant de parler de moi, déjà je suis contente que t'aies réussi à trouver des infos là-dessus, parce que je t'avouerai qu'en préparant le sujet, j'ai galéré à trouver des véritables statistiques ou références qui déterminent en termes de chiffres ce dont t'as parlé, à savoir l'étroiteté, je sais pas si ça se dit... L'étroitesse du bassin de la femme africaine et maghrébine aussi, hein, parce que je pense qu'elle souffre aussi.
Oui, j'ai dit les femmes non blanches, en fait.
Voilà, d'accord. j'ai pas trouvé beaucoup d'infos, donc je suis ravie de savoir qu'il y a quelques sources sur le sujet. Moi, j'ai trouvé beaucoup plus d'informations concernant les pays américains, ou en tout cas anglo-saxons aussi. J'ai pu voir que le taux de mortalité lié à la maternité est très élevé aux US par rapport au reste du monde, et qui sont ce taux est constamment en augmentation.
Le taux de mortalité des femmes afro-américaines,
Exactement.
Tu veux dire? Ouais. D'accord, ok.
27% d'augmentation entre 2000 et 2014. C'est quand même énorme. Ça crée un fossé qui ne cesse d'accroître entre les décès des mères noires et les décès des femmes blanches. Mm-hmm. Les décès des femmes qui accouchent blanches. Par exemple, pour être un tout petit peu plus précise, 43,5 femmes noires pour 100 000 naissances. Vivante en moyenne, contre 12,7 décès pour les femmes blanches. Ah, et oui, ça, c'est selon une source sûre, selon le CDC.
D'accord, oui, donc c'est des chiffres quand même assez parlants. Cette étude, elle date de quelle année, excuse-moi?
J'ai pas exactement l'année. D'accord. On pourra, si on doit le référencer après, je pourrais chercher. Mais la source, c'est le CDC. Donc, c'est un centre de recherche américain.
D'accord, ok.
Voilà. Et puis, bon, pour terminer, sur les États-Unis, de ce côté-là, j'ai aussi vu qu'au total, les femmes noires sont environ 243% plus susceptibles que les femmes blanches de mourir de causes liées à la grossesse ou à l'accouchement, ce qui produit quand même une des plus grandes disparités raciales en matière de santé des femmes. Et ça, c'est également selon une source ProPublica.
D'accord, ok. Oui, parce qu'effectivement, il y a aussi ce stéréotype comme quoi les femmes noires, elles seraient plus résistantes à la douleur, peu sensibles. Et c'est vrai que du coup, le traitement médical et l'accompagnement, pour le coup, est beaucoup moins poussé que par rapport à d'autres femmes. Et ça, c'est vraiment des préjugés qui sont basés sur du racisme au final. Enfin,
oui, oui, non, mais carrément. Si tu reprends le cas de Serena Williams, qui elle aussi a élevé sa voix concernant ce sujet, lorsqu'elle est tombée enceinte et qu'elle a accouché pour la première fois de sa fille, justement, elle a fait état de ce traitement médical qu'elle a subi. Il faut savoir qu'elle était sujette avant sa grossesse aux embolies pulmonaires.
D'accord.
Et du coup, lorsqu'elle a accouché, elle connaissait bien son corps et elle a tout de suite ressenti un malaise physique, quelque chose qui n'allait pas. Elle a tenté d'alerter le corps médical et ils l'ont pas pris au sérieux, quoi. Elle se sentait mal, elle leur a dit « je me sens pas bien » et ça, il s'est passé quand même beaucoup de temps avant qu'ils la prennent au sérieux et qu'ils lui administrent les médicaments nécessaires, sachant que elle savait même de quoi elle avait besoin, quoi. Elle leur disait « il me faut absolument une seringue de... » je sais plus c'était quoi le médicament, mais elle était capable de dire au médecin ce dont elle avait besoin dans l'instant pour aller mieux. Et ils se sont dit qu'elle délire, enfin... bon, elle est en train de perdre un peu la tête parce qu'elle vient d'accoucher, elle exagère,
oui.
Voilà.
Oui, donc ça prouve bien que Serena Williams, c'est quand même une femme qui est célèbre, qui est riche, et effectivement, ça n'a pas évité que pour le coup son traitement soit différent en fait d'une autre femme noire.
Exactement. Ouais. Aux États-Unis, c'est carrément ça. Il faut savoir que là-bas, tu es une femme noire, même si tu viens d'un milieu aisé, tu as beaucoup plus de chances d'être victime de mourir en couche qu'une femme blanche d'un milieu plus populaire.
D'accord.
Donc là-bas, la classe sociale n'a vraiment pas d'importance de ce côté-là. Le racisme, il est clair et net, quoi. Il a rien à voir avec la classe sociale, quoi. Et ça, c'est encore plus effrayant parce qu'on peut se dire que, bon, t'es noir, mais si t'as de l'argent, normalement, ça pourrait compter, malheureusement,
oui,
hein.
Oui.
Mais on pourrait réfléchir comme ça. Et là-bas, tu te rends compte que le racisme, il est vraiment poussé, puisque tu sois cultivé ou aisé, tu prendras jamais le dessus sur une autre communauté, en fait.
D'accord, ok, très bien. Et ce que tu dis sur Serena Williams, ça me fait aussi penser à ce qu'on appelle en fait le syndrome méditerranéen, qui est en fait un préjugé qui est beaucoup répandu dans le système médical. Et en fait, on a eu plus ou moins l'exemple assez triste il y a 2 ans, en fait, du cas de cette femme qui se nommait Naomi Muzenga, une femme qui était victime d'une intoxication au paracétamol, qui a contacté le SAMU, et en fait les deux opératrices au téléphone ne l'ont pas prise au sérieux, parce qu'il y a aussi ce préjugé comme quoi les personnes issues de pays nous occidentaux, donc principalement le syndrome méditerranéen, c'est pour les personnes issues de pays méditerranéens, mais ça s'est aussi étendu, on va dire, à toutes les personnes non blanches. Ce préjugé considère que on serait plus expansif dans l'expression de notre douleur, donc comme tu l'avais précisé pour Serena, que du coup on exagère en fait quand on a mal, et du coup cette jeune femme Naomi, les personnes qui l'ont eue en ligne ne l'ont pas prise au sérieux, donc du coup sa prise en charge a mis énormément de temps. Elle a été prise en charge plus de 5 heures après son appel, et malheureusement elle est décédée. Donc c'est vrai que on voit qu'au final ces violences, elles sont institutionnalisées. Ce sont des violences physiques, mais qui après ont un impact direct sur le psychique et sur la santé mentale.
Ouais, c'est ça. Mais pour le cas de Naomi, c'est intéressant puisque justement la question du racisme a été très vite posée et
mise de côté aussi
et peut-être mise de côté en tout cas moi j'ai suivi l'affaire jusqu'à le questionnement et je t'avouerai que j'ai pas eu vraiment beaucoup les réponses, j'ai pas suivi beaucoup les réponses mais la question on se demandait bon comme elle s'appelle Naomi
Muzenga.
Voilà, est-ce que on a pu déceler le fait qu'elle était d'origine étrangère et est-ce que ça aurait influencé les opérateurs pour ne pas agir, quoi.
Oui, oui. Bah, c'est vrai que, après, on peut se dire, bah, peut-être que son nom n'est pas forcément à consonance africaine. Après, moi, je me souviens un peu, vaguement, que je pense qu'elle avait un léger accent, mais après, peut-être que je me trompe, hein.
Moi, j'ai pas écouté l'audio, du coup.
Ouais, parce que l'audio est vraiment très dur à écouter, donc je l'ai pas réécouté. Mais dans mes souvenirs, j'ai le souvenir qu'elle avait un accent, mais après, honnêtement, j'en suis pas sûre. Mais effectivement, sa famille a vraiment, demandé à ce que le corps médical soit sanctionné, parce que pour eux, c'est non-assistance à personne en danger. Et ils ont mis beaucoup en avant le racisme, mais effectivement, ce facteur-là a été très, très rapidement mis sous silence. En
fait. Mais bien sûr, de toute façon, que ce soit une femme noire ou non noire, le corps médical n'a pas à traîner. Je veux dire, c'était aberrant, quoi. Je veux dire, vaut mieux que ce soit... un gag et qu'on s'en rende compte et que la personne elle soit sanctionnée que de ne pas porter secours immédiatement à la personne. Donc déjà il y a une défaillance dans le système qui franchement c'est chaud.
Oui, totalement. Ouais.
Et puis si jamais ces personnes ont agi parce qu'elles avaient connaissance ou un doute sur le fait que c'était une personne noire, ben c'est encore pire, quoi.
Oui, oui, donc de toute façon, après, ça, malheureusement, on peut pas le savoir, mais c'est vrai que moi, j'ai lu quelques articles, justement, sur ce syndrome méditerranéen, et c'est assez aberrant, parce que, ça arrive très souvent, c'est pas un syndrome qui est théorisé, c'est pas appris dans les écoles de médecine, mais très souvent, il y a certaines personnes du corps médical qui disent que, quand ils reçoivent des personnes d'origine étrangère, tu vas avoir le médecin qui va dire, oh, mais de toute façon, lui, il a atteint du syndrome méditerranéen, il exagère un peu et t'as beaucoup de personnes qui sont mortes à cause de ça en fait.
D'accord.
Donc voilà.
C'est compliqué parce qu'en France, c'est vrai, on aurait pu essayer de partager avec nos amis qui ont eu des enfants. Ça aurait été intéressant d'avoir leur ressenti par rapport à ça. Je sais pas si en France le traitement il est aussi net, le traitement des femmes noires médicales sur le point de vue médical est aussi net qu'aux États-Unis, puisque c'est aux États-Unis, c'est carrément grave, quoi. Donc, j'espère quand même qu'en France, on n'en est pas à ce point. Tu m'as demandé tout à l'heure mon ressenti personnel, mais tu vois, franchement, là, je vais encore m'attirer les foudres d'une certaine de certaines personnes qui nous écoutent ou qui, enfin, les foudres vont certainement se dire que je passe toujours un peu à côté. Mais voilà, moi, j'ai accouché, j'ai été victime déjà de fibromes à l'entrée de l'adolescence, donc vers 16 ans à peu près. J'ai dû être prise en charge et opérée. Donc les fibromes, il faut savoir que c'est assez répandu dans la communauté noire. Donc voilà. Bon, après moi j'avais la chance que ma mère, elle travaillait dans le corps médical. Et donc du coup, voilà quoi, quand elle en parlait, elle allait voir les médecins, elle savait qu'il fallait parler avec les médecins et tout ça, donc... Bon, est-ce que voilà quoi, elle pouvait, quand on parlait de décision, elle savait que ce qui pouvait être bon ou pas. Donc, on va dire que j'ai été bien prise en charge de ce côté-là. On m'avait annoncé au départ la possibilité, par exemple, de ne pas avoir d'enfant, tu vois. Donc maintenant, je me pose des questions. Est-ce qu'ils auraient intentionnellement envisagé d'aller à la solution la plus rapide en m'enlevant l'utérus ou je sais pas. Mais en tout cas, ma mère, elle s'était fortement opposée à cette décision, à cette hypothèse. Et en débattant avec les médecins, en disant non, ça peut se faire autrement. Donc, je saurais jamais si la proposition du médecin, la théorie du médecin en disant que je pourrais peut-être plus avoir d'enfants, c'était une solution de rapidité, ou est-ce que c'était vraiment quelque chose de probable et d'important pour que je sois traitée. Et maintenant, j'ai envie de dire la preuve que non, puisque finalement, ça s'est bien passé et j'ai pu avoir des enfants.
D'accord, mais toi, au niveau de la prise en charge, t'as pas forcément eu d'expérience négative, je sais pas si c'est trop, trop personnel, mais t'as accouché par césarienne, t'as accouché par voix basse?
J'ai eu deux grossesses et deux accouchements par césarienne.
D'accord, mais t'as pas le sentiment que c'est un mode d'accouchement qu'on t'a imposé, en fait. C'était justifié, tu penses ?
Oui, moi, dans mon cas, oui. Donc, du coup, je pourrais même pas... Tu vois, c'est pour ça que j'aurais bien aimé qu'on en parle avec d'autres mamans noires. Dans mon cas, non, puisque suite à mes fibromes, j'avais déjà une opération sur... J'avais déjà une cicatrice sur l'utérus. Mmh. Donc, déjà, il était quasiment certain que j'allais accoucher... par césarienne.
D'accord, ok, ouais, donc toi, de ton point de vue...
De mon point de vue, j'étais déjà destinée à accoucher par césarienne, et ensuite, la question, elle s'est même pas posée après, puisque, comme tu le sais, j'ai eu beaucoup de difficultés pendant la grossesse, à savoir l'hypertension, et toutes ces choses qui m'ont conduit à l'accouchement d'urgence. Et quand tu dois accoucher en urgence, tu peux pas accoucher par voie basse, voilà, quoi, donc...
Oui, ok, d'accord, je vois. Donc, en tout cas, je te remercie de nous avoir fait part un peu de ton expérience. Donc, c'est vrai que je pense que c'est... Là, on a quand même parlé beaucoup du côté médical, mais effectivement, les violences physiques, elles sont directement liées à l'état mental. Mmh. Et effectivement, ces violences dans le corps médical ont vraiment un impact sur la santé mentale, puisque bon, de toute façon, une femme qui, par exemple, accouche est très souvent sujette à une dépression postpartum. Mm. Donc si déjà, t'as l'impression qu'on t'a volé, entre guillemets, ton accouchement parce qu'on t'a imposé des pratiques,
ouais.
Même si, justement, ça peut arriver pour tout type de femme, mais on a aussi beaucoup de témoignages de femmes qui te disent qu'elles ont vécu... par exemple, elles ont eu des remarques racistes, ce genre de choses. Donc après, ça peut avoir un impact sur justement l'augmentation de la dépression. Et ça a un impact direct sur justement après ton bien-être.
Oui, certainement, c'est sûr. Mmh.
Effectivement. Et donc, c'est vrai que c'est vraiment important d'avoir conscience que justement que ça existe. Et c'est vrai que de plus en plus, les personnes non blanches essayent d'avoir la possibilité d'avoir accès à des praticiens qui sont, on va dire, racisés. Ça met encore un peu de temps parce que je pense que ça dérange pas mal de personnes et des fois, on comprend pas forcément. Pourquoi est-ce qu'on a cette nécessité de... certaines personnes ont cette nécessité d'avoir des praticiens qui sont racisés, mais c'est juste que, voilà. Après, peut-être que tu peux aussi avoir des violences de la part d'un corps médical qui est racisé, mais malheureusement, je pense que les préjugés racistes dans le corps médical viennent quand même aussi de personnes non racisées. Mais bon, après, je ne travaille pas dans le corps médical, donc je ne pourrais pas totalement l'affirmer, mais je pense qu'on se sent peut-être plus à l'aise quand on est avec un praticien qui peut nous comprendre, qui a peut-être aussi une connaissance un peu plus étendue de certains aspects de notre vie, qui fait que effectivement, par rapport à une personne qui n'est pas racisée, t'as pas forcément les mêmes problèmes, les mêmes obstacles dans ta vie.
Oui, oui, non, mais carrément. Et moi, je trouve ça assez dommage qu'on puisse pas justement créer officiellement un réseau de praticiens non blancs. Parce que tout ce que tu dis est juste et qu'on devrait avoir le choix. Alors, on va me dire, oui, on peut avoir le choix en cherchant des praticiens, en regardant les photos ou en lisant les noms. Mais bon, ça demande quand même du boulot, alors que si on avait des réseaux directs là-dessus, ce serait beaucoup plus facile, sachant que c'est le cas au Royaume-Uni. Tu en trouves, il existe des réseaux de praticiens et de thérapeutes noirs, africains et asiatiques. Voilà, ce sont des conseillers, des sympathisants qui cherchent à mieux répondre aux besoins psychologiques des personnes noires et asiatiques. Ça, moi, j'en ai trouvé. Donc, ça veut bien dire que, hormis en France, il y a des pays qui sont bien conscients de cette plus-value et de cette importance.
Bah, figure-toi qu'en fait, moi, j'ai trouvé en fait un site qui s'appelle SPI Safe et Inclusif. Qui est en fait un site qui répertorie des praticiens qui sont en fait, on va dire, déconstruits sur les questions de racisme, et de discrimination. Mmh. Donc en fait, c'est des retours d'expérience de patientes qui ont donné ces contacts. Donc les professionnels eux-mêmes ont été informés et ils ont accepté de faire partie de cette liste. Donc je mettrai le lien dans la référence de l'épisode et je trouve que c'est intéressant parce que justement c'est des patientes qui ont consulté ces praticiens et qui justement ont confirmé que ben ils étaient déconstruits sur ces questions-là. Donc c'est juste pour les psychologues. Donc après c'est vrai que ce serait intéressant d'avoir
un
panel un peu plus large. Après c'est vrai que moi de mon côté, comme je te le disais en off, c'est vrai que j'essaye de plus en plus. Bon, ça peut paraître un peu discriminant, mais bon, j'assume totalement. J'essaye de plus en plus, quand je vais chez les médecins, de choisir des médecins qui moi, me paraissent... qui vont peut-être être plus à même de comprendre certaines choses. Bon, même si je vais pas très souvent chez les médecins, mais je trouve que je me sens des fois peut-être plus à l'aise. Même si, après, ça veut rien dire. Hein. Je peux tomber sur une personne qui est d'origine africaine et qui va être complètement exécrable,
oui,
tu vois.
Bien sûr, ouais.
Mais, et puis même des fois, je me dis, bah écoute, j'aide la communauté.
Oui, c'est
donc,
ça.
Du coup, c'est vrai que j'avoue, je regarde un peu. Après, je pense que peut-être qu'il y a des personnes qui sont... comment dire, qui sont non racisés, qui vont se dire « Ah mais nous, si on faisait ça, l'effet inverse, on dirait que c'est du racisme et tout », ben... En fait, le truc, c'est qu'on est quand même dans un pays où on est en minorité, donc pour moi, c'est pas du racisme, parce que justement, nous, on n'est pas en position de domination, donc dans tous les cas, même si moi, je décide d'aller que chez des médecins africains, ben... Je veux dire, les médecins non racisés, ce seront toujours ceux qui sont en majorité. Donc,
bien sûr.
Pour moi, je vois pas trop le souci.
En tout cas, moi, ce lien m'intéresse, hein, parce que franchement, j'aimerais bien choisir, quoi, avoir le choix, ne serait-ce qu'avoir le choix.
Oui.
En gynécologie, par exemple, ça aurait pu être intéressant d'avoir
un gynécologue inclusif.
Ouais, c'est ça.
Ouais. Bah, je pense que ça va arriver. En tout cas, moi, j'avais vu. Je crois que c'était sur le podcast Quad Meuf. Elles en avaient parlé. C'était en fait, je crois que je retrouverai la liste aussi. C'était effectivement des gynécos. Donc là, c'était plus, on va dire, global aux femmes. En fait, des gynécos qui justement sont aussi inclusives, mais dans le sens par rapport au fait que, imaginons, si t'as une personne qui est, je sais pas, lesbienne par exemple, bah elle va pas remettre en cause sa sexualité, ce genre de choses. Et du coup, c'était aussi un réseau de personnes en fait qui avaient alimenté en fait les adresses en disant bah voilà, moi j'ai été voir cette gynéco, je vous confirme qu'elle est safe, elle comprend X ou Y choses, enfin voilà, donc j'essaierai de retrouver cette liste.
Ouais.
Et je trouve que c'était aussi intéressant de parler du lien entre les micro-agressions, le racisme institutionnel et la santé mentale. Parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire, bah, pourquoi est-ce qu'on parle de santé mentale différente pour les femmes noires et les autres femmes, tu vois?
Ouais.
Et en fait, il y a un lien direct. Il y a un lien direct entre le fait qu'on subisse des oppressions, du racisme dans notre vie quotidienne et notre santé mentale. Et du coup, j'ai fait quelques recherches. Et donc, c'est des recherches qui ont principalement été faites sur un public américain.
Ouais.
Parce que, comme on l'a dit précédemment, les statistiques ethniques en France sont interdites. Donc, c'est toujours un peu gênant. Enfin, gênant. Je dirais pas gênant, mais en tout cas, toujours un peu compliqué de trouver des ressources. Parce qu'en France, voilà, c'est pas forcément des sujets... On n'a pas de chiffres vraiment très clairs. Et en fait, il y a plus de 700 études, donc principalement faites sur un public américain, qui fait un lien direct entre le fait de subir des discriminations et l'état de santé. Mmh. Donc en 2015, il y a une étude qui a examiné l'effet de la discrimination sur le cortisol. Donc le cortisol, en fait, c'est une hormone qui est produite naturellement par le corps. Et c'est l'hormone du stress. C'est-à-dire que quand t'es stressé, c'est l'hormone qui te permet en fait de réguler ta pression sanguine.
D'accord.
Et en fait, cette étude, elle a montré que les personnes qui souffraient de discrimination avaient leur pression sanguine qui augmentait et que du coup leur taux de cortisol était très bas. Et ce qui en fait pouvait pousser à avoir un problème, à des problèmes liés à la dépression, à l'obésité et même à des cas de cancer.
Ah ouais.
Elles sont venues appuyer le fait que plus de 10 000 personnes noires meurent prématurément chaque année. Donc c'est-à-dire que t'as des personnes qui meurent comme ça prématurément, on sait pas trop comment, on sait pas trop pourquoi, et c'est aussi directement
c'est
lié
stress.
Bah, c'est lié au stress, le stress qui après va provoquer d'autres maladies comme de troubles alimentaires,
oui.
qui va aussi provoquer encore d'autres choses comme
l'attention,
le cancer. Donc voilà. Et il y avait aussi une autre étude qui montrait qu'on n'avait pas forcément, que c'était prouvé qu'on n'avait pas nécessairement besoin de vivre le racisme directement pour que cela affecte notre santé. Par exemple, il y a certaines personnes qui voyaient des scènes de racisme à la télévision et qui auraient leur tension artérielle qui augmentait longtemps après que ces scènes aient pris fin. Donc, évidemment, ces personnes-là, ce sont des personnes qui font partie des catégories minorisées. Mm-hmm. Donc, en fait, c'est vraiment prouvé que vivre dans une société qui vous est hostile, ça a un impact sur ta santé mentale. Et qu'est-ce que c'est des micro-agressions ? Les micro-agressions, ça va être, par exemple... une recherche de travail, quand tu recherches un travail et que tu subis des micro-agressions, par exemple tu passes un entretien, on pose des questions sur tes origines, sur ton apparence, sur tes cheveux, ça peut être aussi les discriminations que tu vis à l'école, c'est-à-dire que par exemple quand t'es à l'école et que on va t'empêcher de faire un certain cursus scolaire parce que tu viens d'un certain milieu, parce que tu es d'une certaine origine. Et puis il y a aussi les interactions avec les personnes non racisées, c'est-à-dire toutes ces micro-agressions qu'on a au quotidien, le fait que les gens veulent te toucher les cheveux, vont faire des remarques sur ton corps, ce genre de choses. Et en fait, nous, très souvent, et je pense que tu ne me contrediras pas, en fait, on crée un peu des mécanismes de survie. C'est-à-dire que t'as toujours un peu l'impression d'être en apnée, parce que tu peux pas non plus péter un câble tous les jours, tu vois.
Ouais, c'est clair.
Mais le truc, c'est que t'es en fait constamment en alerte, parce que je sais pas, imaginons que par exemple un jour tu vas dire je vais décider de lâcher mon afro ou ce genre de choses, t'es quand même en alerte en te disant peut-être qu'on va me faire des remarques, tout ça. Et les gens pourraient se dire attends, c'est anodin, c'est pas grave si on te touche les cheveux, dans les transports, au travail, tout ça, c'est quand même des micro-agressions, c'est quand même ton corps. Donc moi je trouve que c'est une attaque physique directe. Et en fait, ces mécanismes de survie poussent à être dans des états d'angoisse, dans des états de stress. Et puis, il y a aussi cette peur que ton entourage soit touché. Parce que, par exemple, nous, nos hommes noirs, en fait, ils sont victimes de violences policières, ils sont victimes de contrôle d'identité. Donc, tu as aussi ce stress, cette angoisse, que pas forcément que ce soit toi qui sois touché, mais que ton entourage, dès que, par exemple, ton homme ou ton fils sort, te dire « est-ce qu'il va revenir vivant ?» Donc ça aussi, ça joue sur ton sur ton état psychologique. Donc voilà, entrer constamment en mode survie, ces études ont montré qu'en fait, au final, les populations noires, bon après ça c'est vraiment des études, mais disent que il y a certaines personnes des populations noires ont un sens du futur qui est très restreint et qui se projette plus difficilement dans l'avenir.
Ouais. D'accord. Ouais, c'est très intéressant et très parlant. Moi, je vais juste rebondir sur ce que tu as dit sur les micro-agressions, qui effectivement dans la scolarité, on ressent que plus on avance, plus ça peut être difficile, et que si t'es ambitieux, tu vas vite être soumis à cette pression, parce que déjà tu te retrouves, je pense, comme tu l'as dit, en minorité. T'as pas beaucoup de noirs. Plus tu montes dans les études, moi on est nombreux, donc ça t'oblige à te questionner, ça t'oblige à te surpasser, ça te met une pression, quoi, que tu le saches ou pas. Il se passe quelque chose en toi qui te met en mode survie déjà. Et puis dès la scolarisation aussi, dès la plus tendre enfance, quand les enfants dans la cour de récréation, on veut pas jouer avec eux parce qu'ils sont noirs et qu'on leur dit, qu'on le verbalise. Ou qu'on leur montre dans les écoles privées aussi où on est parfois minoritaire, l'enfant il est très rapidement amené à se questionner sur sa couleur de peau et pourquoi est-ce que on agit avec lui différemment. Donc je pense que même chez un enfant en bas âge, qu'il puisse le verbaliser ou pas, il peut subir du stress, de l'angoisse et de l'anxiété très rapidement. Et puis je vais aussi rebondir sur ces micro-agressions en parlant de la recherche d'appartement. Quelque chose qui paraît normalement anodin, enfin chercher un appartement à la base on n'est pas censé faire face au racisme, mais quand tu sais que tu envoies la photocopie de tes documents et que t'as un nom à consonance africaine étrangère et que t'es noire, on va te proposer des appartements dans des endroits plus défavorisé, moins attractif, et souvent, alors que tu as pour le même budget la possibilité d'habiter dans des endroits un peu plus cossus, où il fait bon vivre. Mais même là-dessus, voilà, les personnes qui décident l'attribution des appartements, malheureusement, ben, elles sont aussi racistes et voilà, on n'a pas accès à ce confort, donc on se retrouve encore dans des endroits où la qualité de vie, ben, elle aurait pu être meilleure et voilà.
Oui, effectivement, donc ça prouve bien que qu'il y a un lien direct entre le racisme qu'on dit institutionnel et notre santé mentale en tant que personne noire. Et juste pour finir sur les différentes études que j'ai lues, je mettrai le lien, parce qu'en fait c'était un article qui était très intéressant sur un site qui s'appelait Néo-Québec, si je me trompe pas. Mm-hmm. Donc c'était un article qui a été écrit par une personne d'origine canadienne. Et donc elle avait aussi précisé qu'il y avait certains experts qui maintenant parlent même d'utiliser les mêmes critères de diagnostic que les PTSD, pardon, c'est les Post-Traumatic Stress Disorder. Mm-hmm. En fait, c'est des diagnostics qui sont donnés lorsque des individus survivent à des situations dramatiques, comme par exemple un attentat, une prise d'otage, ce genre de choses. Mm-hmm. Et en fait, donc, ils ont été témoins d'un stress intense. Et donc, ces Post-Traumatic Stress Disorder, ce sont des effets qui se présentent, enfin, qui se manifestent bien après que le danger ait eu lieu. Et en fait, ces experts considèrent que on pourrait justement se servir de base de réflexion pour prouver que qu'effectivement, quand tu es victime de discrimination, ça a aussi un impact et que du coup, tu peux aussi être dans un état dépressif qui dure assez longtemps. Mmh. Et donc, ils souhaiteraient. Il y a certains professionnels de la santé qui discutent. Pour établir et reconnaître un diagnostic appelé RBTS, qui serait Race-Based Traumatic Disorder. En fait, en français, c'est le stress traumatique basé sur la race. Donc, ce serait en fait développer un concept qui prouve qu'effectivement, tu peux avoir des stress traumatiques liés directement aux discriminations raciales.
D'accord. On pourrait également s'interroger sur la place de la religion et de la croyance liée à la santé mentale, hein, parce que comme on le sait, bah les populations noires africaines et antillaises sont souvent très croyantes et parfois, bah justement, le fait d'être croyant, bah va prendre le dessus sur l'état mental. Je veux dire par là que on peut facilement se rapprocher, se conforter dans la religion. Mm-hmm. pour trouver des solutions au lieu de faire appel à des praticiens. Enfin, je te dis ça par exemple parce que moi, quand j'étais jeune, j'ai souvenir que ma mère et ses copines, bah voilà, quand il y avait un problème, quand elles allaient mal, que ça pouvait juste être d'ordre moral, bah voilà quoi, elles se disaient jamais, mais est-ce que t'as été voir un psy, est-ce que t'en as parlé à quelqu'un? Elles vont plutôt se conseiller en disant, il faut prier, tout, faut aller à l'église, il faut prier, il faut demander à Dieu de l'aide et tout, des trucs comme ça. Donc oui, pourquoi pas, évidemment que la croyance a un bienfait et que ça a son importance, mais est-ce que ça a un lien forcément direct avec la maladie, tu vois, le mal-être? Tu vas demander quelque chose à Dieu, mais tu peux te faire aider par un médecin aussi s'il s'agit d'un problème de santé mentale. Et puis nos mères, elles ne pensaient pas comme ça, tu vois.
Oui, oui, totalement. Et en fait, on peut très bien, parce que souvent, je suis totalement d'accord avec toi, souvent quand, par exemple, tu, imaginons que tu fais état d'un état, disons, dépressif dans nos communautés, on va te dire, bon, bah, il faut prier, ça passera, c'est une épreuve. Donc effectivement, je suis tout à fait d'accord, c'est une épreuve. Quand c'est des up and down de temps en temps, ok, mais quand c'est un état qui s'inscrit dans la durée, ça nécessite un encadrement professionnel. Mmh. Et on peut très bien continuer à prier, continuer à pratiquer et à justement s'en remettre à Dieu tout en étant accompagnée. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout contradictoire avec la foi. Et c'est vrai que dans nos communautés, malheureusement, dès que tu dis que, ben voilà, que t'es, enfin, de toute façon, tu le dis pas parce que,
ouais, c'est ce que j'allais te dire. Je ne suis même pas sûre qu'on emploie le mot je déprime dans nos communautés.
Non,
enfin, nos mères.
Ça se fait pas parce que c'est vrai qu'en plus, nous, en tant que femmes noires, bon, bah, strong black woman, tout va bien, même si ça va mal, tout va bien. On est vraiment dans un état de résilience constant.
Mais est-ce que tu penses qu'elles sont même capables de s'auto-analyser et de se dire, ah, je crois que je déprime?
Non, je pense pas, tu vois. Même si des fois elles vont être dans des états, parce qu'en plus c'est vrai qu'on est dans des sociétés, par exemple les sociétés africaines, moi j'ai parlé de ce que je connais, mais les sociétés ouest-africaines, les femmes, elles ont vraiment une position qui est assez particulière, parce qu'elles ont une position qui est assez charnière, parce que c'est vraiment autour d'elles que tourne le foyer, mais à côté de ça, ça reste quand même des sociétés très patriarcales. Nous, en fait, on a la polygamie aussi, donc voilà, je veux dire, quand t'es mariée pendant des années avec ton mari et que il te ramène une deuxième femme qui est peut-être plus jeune que toi, machin, bah ça a un impact direct sur ta santé mentale. Mais est-ce que après toi, de ton côté, tu vas te dire, enfin, je pense pas qu'il y a une auto-analyse qui se fait. Je ne sais pas, parce que de toute façon, c'est des questions qu'on pose pas. Moi, je m'étais posé la question d'en parler à ma mère, mais je pense qu'elle m'aurait remballée.
Elle m'aurait dit, mais quoi, la dépression.
mais c'est les affaires des blancs là, c'est faux, mais d'essayer. Donc ouais, c'est sûr que ouais, dans nos sociétés. Dans nos sociétés africaines, c'est compliqué de parler de ces sujets-là. Moi, de mon côté, c'est vrai que comme je suis musulmane, j'ai trouvé intéressant aussi d'un peu m'intéresser au lien entre justement l'islam et la santé mentale. Et c'est vrai que moi, j'ai été très souvent amenée à en discuter avec des personnes. Et c'est un peu aussi souvent ça qui revient, de te dire que voilà, il faut prier. Et que les personnes qui sont dépressives sont des personnes faibles. Donc il faut savoir qu'en fait, en islam, dans le Coran, en tout cas, il y a beaucoup de versets justement qui te parlent de la nécessité et de l'importance de prendre soin de ton nafs. En fait, le nafs, on va dire, ça peut être traduit littéralement en français, de ton âme, en fait, parce que en fait c'est ce qui te permet de justement soit faire des actes qui te contenteront, soit qui vont par exemple te faire souffrir, enfin ce genre de choses. Donc déjà, en fait, le côté santé mentale, il est très mis en avant dans l'islam, dans le sens où vraiment le côté psychologique est assez mis en avant, et on considère vraiment que le corps et l'âme sont directement liés, et que c'est pas deux entités qui se baladent individuellement. Et je trouve que c'était aussi intéressant de voir que dans l'histoire, on a des exemples de prophètes, en fait, qui ont souffert, qui ont de la tristesse. Et donc nous, en tant que personnes religieuses et croyantes, pour nous, les prophètes, c'est les meilleurs des hommes. Et donc du coup, si eux, ils ont vécu ce genre d'expérience, qu'en est-il de nous, en fait?
Bah bien sûr.
Qu'en est-il de nous? Et par exemple, on a l'exemple du prophète Yacoub. Donc dans la tradition chrétienne, la religion chrétienne, c'est Jacob. Et la religion juive également. Donc en fait, c'est le père de Joseph, Youssouf, qui lui, en fait, Youssouf, pendant des années, il a pensé, Jacob, que son fils était mort. Et en fait, il a tellement pleuré qu'il en est devenu aveugle. Tu vois, donc vraiment, c'était un état de tristesse assez énorme. Et on a aussi le cas de notre prophète de l'islam, Mohammed, paix soit sur lui, qui lui aussi a beaucoup souffert dans sa vie, et notamment quand il a perdu sa première femme, Khadija, et son oncle la même année, et cette année a même été appelée l'année de la tristesse. Donc ça prouve vraiment que voilà, les prophètes, c'est les meilleurs des hommes, et eux aussi, ils ont vécu des états de tristesse. Et je voudrais juste en fait rajouter par rapport à l'aspect religieux, ce qui est aussi important, c'est que tu vois, on a parlé de la nécessité d'avoir des psychologues qui te comprennent, et qui comprennent les spécificités de ta vie. Et en fait, je suis tombée sur un article sur le site de l'ALAB, l'association l'ALAB, qui était très intéressant aussi sur la santé mentale, spécifiquement des musulmanes. Et en fait, t'avais une femme qui témoignait et qui disait que elle a été voir un psy, et que justement, elle leur expliquait que elle avait du stress parce qu'elle avait peur de l'enfer. Et en fait, il s'est moqué d'elle. Il s'est dit, l'enfer, ça n'existe pas. Tu vois, donc en fait, c'est vraiment très important d'avoir des psys qui peuvent te comprendre, parce que nous, en tant que personnes croyantes, on croit à des choses tu vois, enfin, je veux dire, on croit à la vie après la mort, on croit à l'enfer, donc ça peut créer aussi du stress, ça. Tu vois, si t'as une personne en face qui est censée te soigner et qui croit pas à ce que tu dis, bon, bah, où on va, en fait.
Ouais, ça peut être intéressant de voir le rapport entre la psychologie et comment est-ce qu'on est pris en charge quand on est une personne religieuse d'un point de vue psychologique, quoi. Ouais, il y a quand même une intersectionnalité intéressante à étudier sur ce point de vue-là. Mais du coup, moi, ça m'a fait penser encore à autre chose. Les personnes croyantes, quand on est croyant, on croit aussi à l'occulte. Mm-hmm. Et souvent, on peut aussi dire d'une personne en souffrance qui en fait va manifester des symptômes de dépression, mm-hmm. mais qu'on va associer plutôt à de la possession.
Ah oui, oui.
Tu vois,
On t'a jeté un sort.
Attends, tu vois, donc en fait, t'es enfermé dans ta chambre, tu vas mal, tu manges plus. En fait, t'es dépressif, mm-hmm. mais on va te dire t'es possédé, quoi. Mm-hmm. En fait, il faut aller te faire exorciser.
Oui, totalement.
Etc., totalement. Tu vois.
Oui, oui. Et oui, oui, dès qu'en fait t'as des problèmes, disons mentaux, bah c'est la sorcellerie en fait. C'est on t'a jeté un sort. Après ça, enfin moi personnellement j'y crois, ça existe.
Oui,
hein.
Ça peut, mais c'est pas.
Mais c'est pas que ça.
C'est
en
pas
fait.
Que ça.
Ouais. Oui, c'est pas que ça. Donc ouais. En tout cas, je voulais juste finir pour dire qu'en tout cas dans l'islam, il est vraiment préconisé de demander de l'aide quand ça va mal. Il y a même un hadith qui dit un hadith, c'est les paroles rapportées du prophète de l'islam Mohammed, paix soit sur lui, qui dit « Allah n'a pas fait descendre une maladie sans descendre son remède ». Donc ça veut bien dire que voilà, toute maladie a un remède, donc ça fait aussi un lien au fait que si par exemple t'as des problèmes de santé mentale, il n'y a aucun souci à consulter et à être encadré professionnellement. Voilà.
Ouais, d'accord.
Oui, comme d'habitude, c'est un sujet qui est très vaste, on aurait encore plein de choses à dire, mais du coup on va clôturer. Et en fait, on s'est intéressé aux solutions qui permettent justement d'améliorer sa santé mentale, les solutions qui ont été mises en place. Et donc Lisa, est-ce que tu peux un peu nous parler des solutions que toi, tu as trouvées sur le sujet ?
Oui, effectivement, ben, comme on en a parlé hein, tout au long du sujet, la santé mentale est un sujet plus que d'actualité en 2019. Les voix se libèrent et notamment grâce aux réseaux sociaux, Instagram notamment, Facebook, Twitter, etc. Donc déjà, ne serait-ce qu'en s'informant, on a la chance d'avoir des blogueuses qui sensibilisent beaucoup leur public en publiant régulièrement des articles, des témoignages, en partageant leur propre expérience, en conseillant, en apportant des conseils sur le prendre soin de soi, que ce soit sur l'hygiène alimentaire, la pratique sportive, la méditation, la spiritualité, un ensemble d'éléments en fait qui vont nous permettre de nous renforcer sainement. De renforcer sainement notre mental. On a également une recrudescence de workshops, tu sais, ces ateliers où on se retrouve entre femmes noires pour discuter librement, dans un environnement bienveillant, entouré de personnes bienveillantes. Donc ça permet aux femmes, ne serait-ce que par la parole, en écoutant aussi le récit d'autres femmes, hein, de ne pas se sentir seule et de s'informer, de rencontrer d'autres personnes et d'échanger. Il y a également en ce moment une recrudescence d'organisation de retraites. Je pense notamment au duo Stella et Audrey qui forment à elles deux les rendez-vous sexcare et qui permettent aux femmes de parler ensemble librement de sexualité. Et depuis peu, elles ont mis en place des retraites dans des pays étrangers où elles se retrouvent entre femmes noires, toujours dans cet esprit de bienveillance, de discussion et d'échange. Donc déjà, en s'informant, on peut trouver certaines solutions. Ensuite, je pense que consulter, ça reste important. Mm-hmm. Consulter des spécialistes, même si en France, faire appel au service d'un psychologue, ça reste onéreux. Donc ça ne reste pas à la portée de tout le monde. Hein. La séance chez un psychologue, c'est en moyenne 60 euros et c'est non remboursé. Donc du coup, ça peut être un frein pour nous autres femmes noires à la consultation, surtout quand on a des revenus modestes ou quand on est en famille, on se demande toujours si cet argent, il est pas un peu dépensé bêtement, mais en fait non quoi, on est capable de dépenser 60 € en faisant 2 restos par mois ou en s'achetant des fringues ou des babioles. Donc du coup je pense que on doit déjà se prendre soin de soi, voilà, être conscient que prendre soin de soi c'est aussi dépenser pour soi et ne pas hésiter à faire appel aux services de spécialistes tels qu'un psychologue. Et puis maintenant on a les moyens un petit peu de pouvoir trouver des psychologues noirs pour un suivi plus optimum en fait.
Oui, effectivement, comme on l'avait dit précédemment, c'est vrai que c'est quand même important de trouver des psychologues qui ne remettront pas en question nos vécus, nos ressentis, et qui seront quand même à même de comprendre les spécificités d'être une femme noire dans une société où tu n'es pas dans la classe dominante en fait.
Oui, exactement. Et toi, t'as pensé à des choses en termes de solutions?
Non. J'ai pas pensé à des solutions, mais j'ai juste pensé au fait que je trouve que maintenant, même au niveau des arts artistiques, on voit de plus en plus de femmes noires qui ont des problèmes de santé mentale. Mm-hmm. Et je trouve que c'est vraiment très bien parce que toi aussi, ça te permet justement de te dire, est-ce que je peux maintenant beaucoup plus libérer la parole? Et c'est vrai que moi je regarde beaucoup de séries et justement j'ai fait le constat que par exemple on a la série How to Get Away with a Murder avec l'actrice Viola Davis. Oui. Donc elle joue une avocate qui a une santé mentale qui est très fragile et on la voit vraiment dans des situations assez dramatiques parfois, et je trouve que ça tend vraiment à rendre le sujet un peu plus
accessible.
Oui, accessible, voilà. Mmh. Et donc il y a aussi dans la série Insecure, on a Molly, donc qui est la meilleure amie de Issa dans la série, qui consulte une thérapeute. On la voit dans ses consultations. Bon, c'est des fois toujours un peu drôle, mais bon. Enfin, c'est parfois un peu drôle. Mmh. Mais je trouve que c'est important parce que, comme on le sait très bien, les représentations comptent.
Ouais.
Donc ça tend vraiment à rendre ce problème visible et à montrer que c'est pas quelque chose d'anodin, ce n'est pas juste un problème de blanc comme on peut l'entendre parfois. Ces problèmes de santé mentale touchent toutes les communautés et donc je trouve ça top qu'on commence peu à peu à justement voir ces images, enfin faire un peu tomber cette image de la strong black woman, parce que on peut être très bien des femmes résilientes, mais on n'est pas que ça en fait, on est beaucoup de choses. Et donc voilà, en tout cas je te remercie d'avoir partagé toutes ces solutions.
Attends, excuse-moi, je te coupe parce que du coup ça me fait penser également dans la lecture aussi. Hein, on a beaucoup d'écrivains qui se penchent sur le sujet et notamment Chimamanda aussi qui écrit que ce soit des articles ou des livres autour de ça. Donc là je peux pas référencer parce que je l'ai pas en tête, mais j'ai pas les titres en tête. Mais enfin voilà quoi, il y a des autrices qui se sont penchées sur le sujet et on peut également en termes de représentation s'inspirer de leurs expériences.
D'accord, ok, très bien. Écoute, je pense qu'on a on a fait un peu le tour. Donc comme d'habitude, on va passer à nos recommandations. Donc dis-moi Lisa, est-ce que tu as des recommandations à nous faire, des choses qui t'ont intéressé récemment?
Comme j'ai parlé d'elle, je vais les recommander, Stella et Audrey Badassman, qui forment toutes les deux les rendez-vous sexcare. Donc elles ont un site Instagram. Ça peut être intéressant d'aller voir ce qu'elles proposent. Voilà pour ma première recommandation. Et pour la seconde, en cette période estivale, je sais pas si nous on va y aller, mais en tout cas, il y a le festival Nyan Sapo qui propose sa deuxième édition. Donc voilà quoi, ça peut être aussi un moment de rencontrer d'autres femmes de France et d'ailleurs, puisque c'est un festival international. Ton pied, mon pied, qui se déroule du 26 au 28 juillet à Paris, sur les thèmes de la sororité, la solidarité locale et internationale. Voilà, donc vous pouvez vous y rendre, ça sera au 14 rue Parmentier dans le 11e arrondissement, et on peut prendre les places et réserver pour les ateliers, puisque les ateliers se réservent sur leur site internet nyansapofest.org, et également avoir la programmation sur le site.
D'accord, ok, très bien. De toute façon, on mettra toutes les références sur la description de l'épisode. Et donc c'est tout pour tes recommandations.
Oh ben, c'est déjà pas mal. Mais ouais. Enfin, j'ai écouté également, j'ai réécouté parce que je l'avais déjà écouté, j'avais bien aimé le podcast La Poudre de Lorraine Bastide, où elle interview Sonia Roland. C'est un podcast qui m'avait intéressée parce que Sonia Roland, ben du coup, elle parle de ses engagements associatifs pour la communauté. Elle parle également de sa carrière, de son rôle en tant que première Miss France africaine et deuxième Miss France non blanche. Elle aborde également sa popularité et surtout son départ du Rwanda où elle avait une vie paisible et aisée à son arrivée en France dans une banlieue populaire. Donc c'est un podcast, si vous ne savez pas quoi écouter, hormis Miroir bien sûr, l'effet Miroir, qui peut être intéressant, et voilà. Il y a également, pour celles qui partent en vacances, hein, ça c'est une petite recommandation vraiment personnelle, qui partent en vacances et qui cherchent une coiffeuse, le site Napimi, franchement trop génial. D'ailleurs j'en profite pour faire une dédicace à ma coiffeuse Tina by Napi, parce que elle m'a fait des tresses que je trouve excellentes. Donc c'est une application qui est assez sympa et qui permet de changer un peu, d'être belle et de recevoir une coiffeuse chez elle. Donc ça fait toujours partie du prendre soin de soi, donc hein, de s'accorder du temps et voilà, de se sentir belle. Voilà.
Ok, très bien. Mais on mettra toutes les références, références dans la description de l'épisode.
Oui.
Alors moi j'ai deux recommandations. Ma première recommandation en fait c'est on va dire un podcast sur le site de la BBC qui s'appelle Black Girls Don't Cry, donc en lien direct avec le sujet. Et en fait c'est témoignage de plusieurs femmes noires anglaises qui parlent de leur rapport avec leur santé mentale, ce qu'elles ont mis en place pour justement se faire soigner, et aussi tous les préjugés qu'il y a autour de cette question dans les communautés noires britanniques. Donc je suis désolée, encore une fois,
c'est toujours en anglais.
Mais en même temps, c'est vrai que les ressources sont quand même très souvent anglo-saxonnes.
Ouais,
après, franchement, pour les personnes qui ne maîtrisent pas l'anglais, la site de la BBC, c'est vraiment un bijou. Parce que si vous avez des sujets qui vous intéressent, je trouve que c'est vraiment le meilleur moyen d'améliorer sa compréhension orale. D'accord. Et son vocabulaire. Donc voilà.
D'accord.
Et ma deuxième recommandation, c'est un podcast de la radio RFI qui s'appelle « Dans les pas d'Alfred ». Donc c'est un podcast qui nous permet de suivre le parcours d'un Ivoirien qui s'appelle donc Alfred, qui vit actuellement sur le sol italien et qui a quitté la Côte d'Ivoire en 2011. Donc il a quand même mis 4 ans pour atteindre l'Europe. Et en fait, on le suit un peu dans ses mésaventures surtout. Et c'est un podcast qui est vraiment très touchant, très intéressant, parce qu'il permet vraiment de donner une voix à ces personnes qu'on désigne très souvent grossièrement comme des personnes migrantes. Mais ces personnes ont tous des parcours de vie différents. Et je trouve que c'est très intéressant de comprendre pourquoi ces personnes, un jour, ont été amenées à quitter leur terre natale pour justement rejoindre l'Europe. Donc je vous le conseille vivement parce que c'est très touchant, c'est drôle, c'est vraiment très bien fait. Donc voilà, c'était ma deuxième recommandation.
D'accord. Alors je pense qu'il est temps de souhaiter bonnes vacances à tous les auditeurs.
Oui, ça fait longtemps qu'on vous a pas sollicité. Mais du coup, il faut nous laisser des étoiles sur Apple Podcast. Et oui. Bien sûr, si vous nous laissez pas 5 étoiles, c'est pas la peine. Bien sûr, si vous appréciez ce qu'on fait, hein, si vous n'appréciez pas, ne faites rien. Ne parlez pas, ne dites rien. Donc on compte sur vous pour donner un peu plus de visibilité à notre podcast.
Et puis nous faire des retours aussi, hein, on peut continuer les échanges en off. Et puis voilà, si vous aussi vous avez été victime justement de racisme par rapport à une situation ou à votre santé mentale. Faites-nous part de vos expériences, on peut toujours échanger, c'est toujours intéressant de, oui, d'avoir d'autres points de vue.
Oui, et merci beaucoup aux personnes justement qui prennent le temps de nous faire des retours, d'échanger avec nous. C'est toujours hyper enrichissant, même si parfois on n'a pas forcément des points de vue qui sont similaires. C'est toujours très intéressant d'échanger avec nos auditeurs et nos auditrices. Enfin, plus nos auditrices quand même. D'ailleurs, s'il y a des hommes qui nous écoutent, manifestez-vous.
Oui, manifestez-vous, ça peut être intéressant.
Oui, voilà. Donc, écoute, Lisa, merci beaucoup encore une fois. À toi aussi, je te souhaite de très bonnes vacances.
À toi aussi.
Et puis, on se dit à la rentrée.
Si Dieu veut.
Si Dieu veut.
Bonnes vacances. Allez. Et prenez soin de vous.
Prenez soin de vous.
Bye bye.
Bye bye.